Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches, enfin c'est le dernier dimanche à 14h sur France Inter. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Ducrozet. Bonjour Pierre Ducrozet.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Pierre Ducrozet, vous êtes un voyageur, un globe-trotteur, un homme en mouvement, un homme qui a la bougeotte. Faut que ça swing.
Oui, sinon c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc du coup, c'est une petite danse, quoi. En fait, c'est histoire de danser sous la pluie.
Donc vous dansez sous la pluie et vous écrivez aussi sous la pluie.
Oui, quand j'ai fini de danser.
Quand vous avez fini de danser, vous écrivez, vous êtes un écrivain. Et pour cette dernière émission, Pierre Ducrozet, nous allons évoquer ce que nous n'avons pas fait depuis un an et demi, c'est-à-dire
danser
sous la pluie, voyager. Pierre Ducrozet, vous avez choisi comme journée particulière le 15 janvier 2003. Ce jour-là, vous partiez faire le tour du monde.
L'esprit d'aventure souffle où il veut, et non seulement dans les villes au bord de la mer ou au pied des montagnes, mais encore dans des cités aux apparences très calmes. C'est ainsi que dans une petite ville du centre, Issoudun, où rien vraiment ne fait songer au large, ne fait songer aux grands espaces, 3 jeunes ont décidé de faire le tour du monde, avec pour tout moyen d'existence leur jeunesse et leur enthousiasme.
Nous quitterons Issoudun le 21 pour rejoindre Bourges en autocar, et par la route bleue, nous ferons du stop pour Marseille. Nous embarquons à Marseille le 24 pour Oran, Casa. Nous rejoindrons Dakar, le Cap, puis l'Australie, la Polynésie, l'Amérique du Sud, Panama, l'Amérique du Nord, la Chine, où nous sommes attendus à Shanghai dans un collège de jeunes filles chinoises.
Ça fait bien.
Les Indes, la Turquie, l'Autriche, l'Allemagne et enfin le retour à Issoudun.
Et vous pensez être de retour à Issoudun à une date?
Dans 3 ans.
Deux ou trois ans environ, oui.
Et vous y resterez à ce moment une fois
J'en ai de la vie. On repartira.
On repartira. Ça craquait un peu, Pierre Ducrozet. C'était une archive de 1948, mais qui nous plaisait avec ces jeunes gens qui partaient faire le tour du monde et qui étaient sûrs qu'ils ne reviendraient plus jamais à Issoudun. Vous n'êtes pas parti d'Issoudun.
Non. Ça, je m'en souviendrai. Non.
Vous êtes parti de Lyon.
Oui, c'est ça. Ce jour-là, oui. Plus précisément de Saint-Martin-en-Haut, où habitaient alors mes parents et que j'étais allé rendre visite.
Alors, comment ça s'est passé, ce départ? Vous aviez quoi, quel âge?
Donc, j'avais 20 ans.
Ouais.
Et je venais de finir mes études à Sciences Po Lyon. Et c'était l'hiver, il faisait un froid incroyable, il faisait moins 15 degrés. J'étais allé voir mes parents qui venaient de déménager à la campagne. Donc, la maison était en chantier. Et je me souviens qu'ils m'ont descendu vers le train, gare Depardieu, à Lyon.
Ouais.
Et on était avec des bonnets en laine, comme ça, on était congelés, on était un peu fébriles avec mon ami Thomas, à qui je voudrais dédier cette émission, parce que c'est avec lui qu'on a fait ce grand voyage. Et on était un peu, oui, on était jeunes et on était à ça. On avait très envie de partir, en même temps, on était un petit peu, voilà.
Peur, vous aviez peur,
oui,
vous aviez
peu,
le ventre un peu serré.
Un peu, en tout cas, je me souviens que sur ce quai de la gare, on s'était tous un peu regardés, avec mes parents, avec ses parents, avec son frère et le mien. Et on est monté et on a pris le train jusqu'à Paris. Et là, on s'est envolé pour Buenos Aires. Et quand on est arrivé à Buenos Aires, il faisait 35 degrés. Donc 48 degrés étaient passés, un continent et une nouvelle vie qui commençait, quoi.
Et quelle sensation vous aviez en partant ce jour-là, le 15 janvier?
Le recul, ce qui est fou, c'est que j'avais pas... C'était naturel, en fait. Enfin, comment dire, j'étais à la fois... Je me souviens que j'étais excité. Mais disons que c'est toujours quand on fait les choses après coup qu'on se rend compte, en fait, de la portée qu'ils avaient. Mais sur le coup, on les fait de manière assez impulsive, en fait.
Et vous n'étiez pas inquiet?
Non.
Au dernier moment, vous n'avez pas eu envie de faire demi-tour?
Alors, par ailleurs, ça m'arrive très souvent. À chaque fois que je dois partir quelque part, j'ai peur au dernier moment et je fais demi-tour. Mais cette fois-là, alors j'ai dû la voir certainement, mais elle s'était ah, c'est clair que je devais partir et que je voulais partir depuis longtemps. Toute l'année d'avant, j'étais parti souvent aussi en Europe, à droite à gauche. Je préparais ce voyage-là. Et je me souviens quand cet ami, justement, Thomas, est venu me voir et m'a dit, voilà, l'année prochaine, je vais partir en voyage, je crois. Enfin, voilà, est-ce que tu voudrais venir? Je dis, ben oui, ok. Tout ça s'est fait très naturellement et de manière, voilà. Et on ne savait pas, évidemment, la déflagration que ça allait, enfin, on la pressentait, mais on ne pouvait pas savoir la déflagration que ça allait être.
Vous saviez combien de temps vous partiez?
Oui, on savait qu'on partait à peu près 6 mois, quoi.
Et vous aviez défini un itinéraire ou pas du tout?
Alors,
vous partiez au petit bonheur, la chance.
C'était la grande époque. Je sais pas s'il existe encore de ces billets tour du monde.
Mais moi, je me souviens.
Ils existent encore, peut-être. Et donc, on avait des points de chute. Et à partir de ce point de chute, on avait le temps qu'on voulait pour reprendre un autre avion d'un autre point. Donc, par exemple, dans ce cas-là de Ushuaia à Santiago, on avait le temps qu'on voulait. Et quand on arrivait à Santiago, on prenait le téléphone et on disait, voilà, on est prêt à prendre l'avion. Il sera peut-être là dans une semaine et on repartait. Donc, il n'y avait pas de date précise. En gros, on savait que c'était autour de 6 mois, mais ça aurait pu être un peu plus aussi, quoi.
Et vous saviez les grands points où vous alliez vous arrêter. Donc, vous arriviez à Buenos Aires.
Voilà.
Après, vous saviez.
Ensuite, on allait à Ushuaia, donc pointe sud, extrême,
ouais,
du continent.
Ensuite.
Et là, on savait qu'on remontait jusqu'à Santiago, de Chile.
Ouais.
Et là, on allait prendre l'avion pour Auckland, pour la Nouvelle-Zélande, et ensuite qu'il allait avoir l'Australie, et ensuite l'Asie du Sud-Est. On avait un peu choisi déjà dans notre tête, mais on savait que là aussi ça pouvait bouger, quoi. Et ensuite on savait qu'il y a le Vietnam, qu'on voulait aller au Vietnam, qu'on voulait aller au Laos, au Cambodge, etc.
Et c'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce qu'on a fait. Je peut-être qu'il y a eu des changements, mais je ne crois pas parce qu'on avait beaucoup réfléchi et en gros c'était dit, voilà, ça c'est un peu là où on a le plus envie d'aller, et c'était des bons choix. Il y a toujours des pays qu'on aime plus que d'autres et tout, mais je crois que le l'itinéraire était le bon. Ouais en Nouvelle-Zélande par exemple, c'était un truc incroyable. Ouais,
ah bah ça j'imagine. J'imagine, vous me donnez envie. Je suis jamais allée en Nouvelle-Zélande. C'était sublime.
Oui, c'est des paysages complètement fous, c'est miraculeux. C'est-à-dire que des montagnes incroyables, des lacs, des geysers, je sais pas, tout est, et les gens sont d'une, c'est-à-dire vous levez le pouce et quelqu'un s'arrête et vous dit, bah voilà, tu viens chez moi, mais tu vas dormir chez moi et tu vas manger chez moi et tu tu repartiras quand tu voudras.
Le quand vous partez là en janvier 2003, mm-hmm, vous avez l'impression que c'est votre vie qui commence vraiment. Vous avez 20 ans et que là ça va être, vous choisissez votre vie. Il y a quelque chose comme ça dans un départ.
Ouais, il y a un truc vraiment. Oui, c'est ça. C'était déjà un peu en latence, mais là, je pouvais pas savoir à quel point ça allait quand même tout changer, ce voyage-là, parce que c'était plus que d'aller se balader dans le monde, c'était beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette date quand on en a parlé, parce que il y a eu une sorte de bascule presque au niveau pas métaphysique, mais de toute la manière de voir le monde, quoi, en fait. À partir de là, il y a déjà plus de retour, il y a plus de paradis. Il y a une seule terre, ok, très bien, c'est super, mais vous n'échapperez jamais à votre corps ni vous-même à n'importe quel endroit de cette planète. Et il y a une règle, il y a des règles qui sont intangibles, qui sont celles qu'on découvre à cet âge-là, qui sont celles de la vie, de la mort, de plein de choses qui, en fait, que je soupçonnais, mais qui là sont devenues effectives, quoi.
Alors en 2003, Pierre Ducrozet, vous aviez encore en tête Clandestino de Manu Chao, qui était sorti quelques années plus tôt.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je vous laisse des kilomètres, 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 des
Pierre Ducrozet, ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine.
Oui, parce que ça c'était encore quelques années avant, on descendait souvent en voiture à Barcelone, où j'habite maintenant, près des années, et on écoutait effectivement en boucle cet album qui venait de sortir, quoi.
Ouais.
Et ça nous, il y a l'air chaud par la qui rentrait par la vitre, et puis l'arrivée à Barcelone à l'aube, on dormait sur la plage. C'est ça, quoi. C'est tout est dans cet album, quoi.
Alors le 15 janvier 2003, c'est la journée particulière de l'écrivain voyageur. Ça vous plaît, écrivain voyageur?
Ouais, c'est pas trop, parce que on écrit, quoi.
Voilà.
On écrit et puis on voyage.
Donc de celui qui écrit et qui voyage.
Ouais.
Qui s'appelle Pierre Ducrozet, qui est à côté de moi. Ce jour-là, donc vous partiez faire le tour du monde avec votre ami. Première escale, donc vous nous l'avez dit, de votre voyage à Buenos Aires en Argentine. Vous vous souvenez de votre arrivée? Vous avez parlé de la chaleur tout à l'heure, mais les arrivées, les premières images, les aéroports disent toujours beaucoup plus du pays qu'on ne l'imagine. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Moi, souvent, c'est plus que l'aéroport, c'est le bus de l'aéroport.
Et là, je me souviens.
Ouais, et là, je le vois très très bien. Ouais. On était à l'arrière. C'est découvrir déjà l'habitat d'Amérique latine que je connaissais pas, de s'asseoir sur le bus et de commencer à voir les gens, les rues, de voir que tout s'ouvre, quoi. Oui, ça je le vois, quoi. Et c'est moi, c'est ces moments-là que c'est ce que j'adore dans la vie, c'est les débuts de livres et les débuts de voyages, quoi, et les débuts des choses, quoi. Et je me vois, nous vois en train de traverser cette immense avenue del Nuevo de Julio, je crois, et qui sans fin, quoi,
ouais.
Et de traverser et d'être éberlué de chaleur et d'être renversé par la joie d'être là, ouais.
Et à la fois Buenos Aires, ville occidentale, vous reconnaissez des choses.
Ouais.
C'est pas le grand dépaysement et en même temps si.
Oui, c'est ça qui est très marrant, c'est qu'il y a très clairement Barcelone, très clairement Madrid, il y a la Recoleta, c'est Paris, quoi.
C'est un quartier de Buenos Aires.
Ouais, voilà, avec leur Père-Lachaise, etc. Donc il y a toutes les couches de toutes les immigrations qui ont fait l'Argentine, et ça c'est très beau. Et ensuite l'invention argentine qui est tout le reste finalement, les quartiers de la Boca, tout se mêle. C'est vrai que c'est un millefeuille passionnant.
Alors, Pierre Ducrozet, le voyage, c'est aussi du corps. Quand on voyage, on éprouve son corps et il faut s'habituer au voyage. Et ça, vous vous souvenez de ça aussi?
Je dirais même, pour moi, c'est même surtout presque que, c'est que du corps, quoi, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce voyage a été beaucoup tourné, je crois, vers l'intérieur, forcément, quoi, parce que c'était la découverte de son propre corps, en fait. Et j'ai plein de souvenirs de différents voyages où je me vois en train de me dire, ah, tiens, c'est comme ça qu'on marche, ah, c'est comme ça qu'on mange, en fait, de redécouvrir les choses élémentaires. Je crois que c'est pour ça qu'on voyage. C'est parce
pour
que sinon on oublie.
Son corps.
Ouais. Et puis parce que on oublie ce que c'est d'avoir un corps, on oublie ce que c'est que de manger une fraise ou de s'asseoir à une table ou de monter sur une montagne, parce que la vie fait qu'on s'habitue aux choses, en fait. Et le voyage vous réveille votre corps, agite les synapses et fait que vous vous retrouvez à l'intérieur d'un corps et vous arrivez et vous le redécouvrez. Quoi.
Alors Pierre Ducrozet, en parlant de Buenos Aires, impossible bien sûr de ne pas citer Borges. Et il se trouve qu'il y a une magnifique émission sur France Culture qui était une sorte de parcours imaginaire dans la Buenos Aires de Borges. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Je pense au centre de la ville, Je pense au nord, à Singosquina, à Recoleta, et je pense surtout au sud. Je crois que le sud, c'est le noyau de Buenos Aires. J'ai vécu au sud, j'étais le directeur de la Bibliothèque nationale au sud, mais il y a bien des quartiers que je ne connais pas.
Car Buenos Aires est vaste, et jamais, dans la désillusion ou la peine, je ne me suis laissé aller au fil de ces rues sans recevoir une consolation inespérée, venant d'une impression d'irréalité, ou du son des guitares entendues au fond d'une cour, ou peut-être encore du seul contact avec les êtres. Partout, oui, partout, Buenos Aires est venu à mon secours. Porque Buenos Aires es hondo, y nunca, en la desilusión o el penar, me abandoné a sus calles sin recibir inesperado consuelo. Ya de sentir irrealidad, ya de guitarras desde el fondo de un patio, ya de roce de vidas, aquí y aquí me vino a ayudar Buenos Aires.
Cet extrait, Pierre Ducrozet, s'appelle « Ferveur de Buenos Aires ». Et vous, je crois que vous l'avez sillonné avec ardeur, cette ville. Vous êtes perdu dans les rues.
Oui, en fait, ce qui est très beau, c'est ce qui est marrant, c'est que on marchait dans les rues et je me souviens qu'on on voyait les livres de Borges et de Cortázar, on rêvait de les lire, mais on ne savait pas les lire. Et 10 ans plus tard, j'ai rencontré une Argentine dont je suis tombé amoureux et avec qui je vis toujours, une femme formidable, et Julieta, et avec qui dès le départ on a lu Borges et Cortázar en espagnol. Et donc voilà, d'écouter ça, ça m'évoque tout ça. En fait, c'est comment finalement toute la boucle s'est bouclée finalement d'une certaine manière, quoi. Donc oui, à cette époque-là, on marchait dans les rues, on découvrait cette ville.
C'était gigantesque,
ardente. Oui. Ça a été très rapide. On n'est pas resté très très longtemps, mais c'était l'arrivée, donc c'était important.
Et après,
le grand sud, Ushuaia, on est arrivé donc à l'extrême, à la pointe sud.
Et alors, vous écrivez, une fois arrivé au bout du monde, on peut commencer.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire quoi?
C'est que là, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet et du voyage et de cette ardeur qu'on espérait. Et on a remonté toute la Terre de Feu d'abord et toute la Patagonie en sillonnant comme ça entre, parce que ça, on ne fait que se passer du Chili à l'Argentine, la route sillonne. Et c'était très beau. On avait des livres dans notre sac. On écoutait de la musique. On faisait du stop. On montait dans des pick-up. On a dormi une nuit entre les deux pays. C'était dans un no man's land qui n'appartenait à aucun des deux pays. On est allé à Chiloé, l'île du Chili, très belle. On a remonté comme ça ensuite, et on est arrivé à Valparaiso après, à la fin.
Et ça, c'est incroyable.
Ouais. Ben, c'est le port, le port mythique, quoi. On voit bien que quand on est dans les bars, je me souviens d'un bar en particulier, la patine sur le bois, on voit que tous les marins qui montaient du Cap Horn avaient été venus écluser des rhums sur cette table.
Qu'est-ce que vous aviez comme livre dans votre sac? Vous êtes parti avec vos livres. Qu'est-ce que vous aviez avec vous?
Ouais, et ben, alors ça peut paraître cliché ou attendu, mais il y avait Kerouac, quoi, pour moi. Moi, c'était juste l'année d'avant que quelqu'un m'avait mis entre les mains.
Sur la route.
Et tous les livres de Kerouac m'ont vraiment chamboulé. Et là, en particulier, c'était Sur la route qu'on avait.
Ouais.
Qui m'a changé, beaucoup de choses pour moi. Ensuite, il y avait le petit NRF Gallimard de Rimbaud que j'ai toujours, qui est maintenant dans ma cuisine et qui est toujours là, vaillant, et qui m'a pas quitté pendant toutes ces années, donc formidable, la base de tout, quoi. Et il y avait Sandrard aussi.
Ah oui?
Ouais.
Lequel?
Il y avait Bourlinguer de Sandrard.
Chacun a son démon, j'avais le démon du voyage. En réalité, c'est certainement chouette de voyager, se tremper dans un million de milieux différents, boire des pays comme boire des cocktails, n'est-ce pas? Et puis faire surtout pas mal de mixtures, alors comme Shaker, Les moyens de transport de l'époque étaient magnifiques. Aujourd'hui, ça n'est plus ça du tout, n'est-ce pas? Si vous, vous faites Paris-New York par avion en 12 heures, c'est 12 heures d'ennui. En l'occurrence, je l'ai fait une fois bord d'un cargo, 42 jours, c'était 42 jours de rigolade.
Et quand vous écrivez un livre tel que Bourlinguer, où vous repassez toute votre vie, j'aimerais savoir, enfin, quel effet cela vous fait, affectivement, si je peux dire.
Ça m'amuse beaucoup. Au tournant de la plume, comme ça, des choses vous reviennent, des gens qu'on a rencontrés, comme au coin d'une rue à New York.
Enfin, on se demande ce qu'on peut préférer maintenant, c'est-à-dire que vous restiez dans votre cabinet pour nous écrire encore plusieurs beaux livres, ou que vous recommenciez à voyager.
Dans 10 ans, j'aurai 70 ans. J'ai envie d'aller aux Indes, alors je commence à m'inquiéter. Je voudrais bien avoir un éléphant pas trop jeune, qui ne me secoue pas trop vu le grand âge que j'aurai, n'est-ce pas?
Pierre Ducrozet, c'était une archive de 1948 et c'était Blaise Cendrars. Il est magnifique.
Ah oui, il est formidable.
Alors, vous reconnaissez dans ce démon du voyage, boire des pays comme on boit des cocktails, on fait des mixtures après dans un shaker. C'est ça que vous faites aussi?
Ouais, ah bah c'est le rêve, ça. Mais il y avait tout, chez Cendrars, vraiment, on l'entend parfaitement, là, cette espèce de joie, d'élan, d'appétit, de à la fois de boissons, de pays, de personnes et tout. Il a une soif de vivre, c'est un peu le Whitman français, c'est-à-dire que le monde est un grand gâteau qu'il a envie de et qu'il embrasse comme un grand tout, quoi. J'adore quand il dit il me reste encore, je veux encore aller aux Indes et tout.
Et il lui faut un éléphant, pas trop jeune.
Il lui faut un éléphant, pas trop jeune. Et ses livres sont comme ça, toutes les pages, il y a des histoires incroyables, il y a des pays nouveaux, sa découverte du Brésil par exemple quand il part en 24, c'est formidable, il renaît à de nombreuses reprises dans sa vie, littéralement d'ailleurs, parce qu'il Et voilà. Et donc, ces poèmes étaient hyper importants.
Oui,
pour
quand
moi.
Tu aimes, il faut partir. Parce que moi, quand j'ai pensé à vous, mm-hmm. je pensais à ce poème.
Ouais.
Tu es plus belle que la nuit et le jour.
C'est ça.
Quand
tu aimes, il faut. Tu pèses 64 kilos. Je t'aime.
Je ouais. t'aime. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte tes amis, quitte ton amant.
C'est ça. Ouais. Et ça, c'est dans les premiers. Et puis évidemment, les packs à New York et le Transsibérien. Mais ensuite, mon père, que je remercie au passage, m'a offert plein de livres formidables, essentiels pour moi, dont Bourlinguer. Et Bourlinguer, il fait un truc assez fou, il réinvente tous ses voyages, toute sa vie, dans toute sa suite autobiographique, et il mêle les époques, les lieux, de manière très fluide. Et là, ce qu'il refait avec sa vie, de Gênes à la Russie, l'Amérique du Sud, c'est voilà, ça m'a beaucoup, ça a été très important pour moi.
Pierre Ducrozet, quand on a commencé cette émission, vous avez dit comme vous ne saviez pas comment ce premier voyage allait vous transformer. Quand vous êtes parti, vous étiez un jeune homme de 20 ans qui ne s'était pas encore frotté. Vraiment au monde. Quel homme êtes-vous devenu à la fin de ce voyage? Comment vous avez été transformé? De quelle façon? Vous m'avez dit, j'ai compris qu'il n'y avait pas de paradis. Qu'est-ce que vous avez compris d'autre?
Eh bien, c'est ça, en fait, parce que ce que vous avez dit, j'avais déjà vu des choses, j'avais déjà voyagé avec mes parents, mais jamais tout seul. Et là, on est tout seul. Même si on est avec quelqu'un, on est seul. Donc, il y a la découverte de ça, de l'individualité, la solitude. Ça, le truc du paradis, je m'en souviens parce que, dis, ok, j'ai fait tout ce tour, je reviens. Et je vois qu'il n'y a pas d'échappatoire, disons. Enfin, il y en a plein, mais en même temps, non. À soi, non. Et à la mort non plus.
Non.
C'est des grands mots, mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de passage à l'âge adulte, en fait. Et donc, ça passe par ces choses-là. Voilà, j'ai mis longtemps à assimiler les choses les choses épaisses de ce voyage qui sont de l'ordre de la, le voyage, c'est,
du dépouillement.
Ouais, le voyage, c'est le dépouillement, ouais. Le voyage, c'est,
mise à l'épreuve.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le thème cher à Bouvier, à Nicolas Bouvier. C'est ça, c'est se mettre à nu, c'est se mettre en danger, c'est se mettre à, voilà, il y a plus que soi face au monde et on se rend compte qu'on est rien du tout. C'est ça qu'on apprend chaque jour. Tout en, évidemment, apprenant ce qu'on avait dit au début, à explorer son être. On explore, mais après on fait le tour et on voit que, bah, il y a que ça, en fait.
Kumo o oikakete oka okake noboru asa no michi jitensha nakama no wanpaku 5人 ga akogareru hito wa atoretto kanojo no mae de wa dare mo ga otona no の羽つけて走る水平線まで。アビシクレット郵便を配るパパを追いかけて長い道自転車乗りなら八つの時から誰にも負けないアートレットみんなで自転車投げ出し無邪気に遊べば
bicyclette en japonais, c'est votre genre de beauté.
Ah, ça a de la gueule, ouais,
ça a de la gueule, c'est pas mal.
Tout ce que font les japonais, ils le font bien.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes allé au Japon, on va en parler un petit peu plus tard.
Rien qui ne rate.
Rien qui ne résiste, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Alors jusqu'à 15h, c'est la journée particulière de Pierre Ducrozet. Donc en janvier 2003, vous réalisiez votre premier tour du monde et depuis, vous êtes toujours en mouvement.
Ouais.
Une fois adopté le rythme du voyage, c'est impossible de s'arrêter.
Oui, et puis de toute façon, il n'y a pas de retour puisqu'il n'y a pas, il y a nulle part où rentrer en fait. Enfin, dire qu'il y a plus, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on n'a plus de maison après.
Mais c'est ce que vous avez compris en revenant de
votre
premier voyage.
Voilà, mais en même temps, on a des maisons partout. Donc on est le corps justement encore une fois devient flexible et s'adapte à n'importe quel environnement très vite. Donc il fait sa maison très vite dans un endroit. En revanche, la vraie maison, on la cherche toujours quoi. Mais depuis, j'ai toujours essayé d'être un peu en mouvement, que je sois après dans une ville quelque part ou en vrai voyage quoi, mais voilà, après j'ai habité à Barcelone, à Berlin, à Paris
et puis en 2020, vous repartez pour un autre tour du monde.
Ouais. Donc là, on est parti avec Julieta, dont je parlais tout à l'heure.
Et pourquoi on repart ? Pourquoi vous repartez ?
Bah oui, il n'y a pas de raison.
Il y en a plein, au contraire.
Ouais. Non, enfin, disons que si on réfléchit à une raison, on dit comme Deleuze qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, il faut être un peu bête pour partir, pour se mettre dans des inconvénients, dans des problèmes. Mais en réalité, c'est parce que c'est plus fort que nous, parce qu'on est poussé par quelque chose dans le dos, quoi, d'incompréhensible, d'indicible. Et donc là, on avait, très envie tous les deux d'aller en Asie, de plonger dans l'Asie, de rentrer dans le... L'idée, c'était d'aller du Népal au Japon, par la terre, enfin jusqu'à la fin prendre un bateau de Shanghai au Japon. Évidemment, il y a eu un petit inconvénient qui s'est appelé Covid et ouais. Qui nous a un peu perturbé. Mais on voulait traverser la Chine. Mais du coup, en janvier 2019, c'était pas une super idée.
Non, pas super.
Donc idée. Voilà, on a contourné par l'Indonésie, Sumatra, on est repassé par la Thaïlande et on est arrivé par le Japon par l'extérieur. On est arrivé au Japon où on voulait finalement arriver.
Mais un voyage à l'ère de l'Anthropocène, c'est pas un peu tabou là, avec toutes ces histoires d'avions, votre empreinte carbone et
ouais.
Tout ça.
Ça l'est.
Qu'est-ce que vous répondez quand
ça
on
l'est,
dit ça?
C'est la grande différence d'ailleurs entre les deux voyages où le premier on était totalement innocent par rapport à ça. Qu'est-ce que je réponds? il faut évidemment se réinventer notre relation au monde, au voyage, au déplacement. Et on peut pas prendre autant l'avion de n'importe quelle manière, tous les jours, n'importe comment, j'allais dire. Mais en même temps, il faut pas renoncer à l'appétit d'aller voir les choses. Et c'est pas parce que il faut qu'on réinvente une manière écologique, plus écologique d'être là, que ça place par rester chez soi, en fait, et ne plus manger, et ne plus... Non, on peut manger, on peut se déplacer, on peut aller voir, mais différemment. Donc, je crois vraiment pas que les deux soient incompatibles, et j'ai beaucoup entendu cette année ça, à propos de mon livre, etc., on a beaucoup parlé.
Bien sûr.
Et on assimile très fortement les deux choses, et je crois que c'est une facilité. En fait, on se sent tellement impuissant, et par rapport à ce qui nous arrive, à ce grand chamboulement, on sait pas par quelle boule prendre, on voit pas où est notre prise, et on se dit, l'avion, ah, c'est ça. Oui, l'avion, c'est une partie, mais c'est une petite partie. Déjà, si on arrête de manger de la viande rouge, ça change, c'est 60% de la chose. Donc, vous voyez, mobilisons-nous au bon endroit et au bon moment, et l'avion en fait partie, oui.
Alors, Pierre Ducrozet, vous vouliez voir la forêt primaire menacée de Sumatra, parce que c'est un voyage à l'ère de l'Anthropocène. Ça, c'était un de vos projets dans ce tour du monde de 2020. Oui. Vous vouliez aussi récolter des informations sur les Rohingyas. Ça en fait partie. Et aussi sur l'oléoduc. Ça m'a beaucoup intéressé, qui relie l'Arabie Saoudite à la Chine en traversant la Birmanie. Ça, c'était des idées que vous aviez en tête quand vous avez commencé ce voyage.
Oui, et je savais déjà que le voyage m'apporterait d'autres réponses, mais pas celle-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, je travaillais sur ce roman, effectivement, donc j'avais des questions par rapport à tout ça. J'ai enquêté, j'ai écouté, etc. Mais finalement, je suis pas un bon reporter, et c'est-à-dire que je dérive, en fait. Et l'oléoduc, je l'ai plus imaginé dans mon roman que
vous n'avez pas vu.
Je l'ai pas pu le voir parce que la plupart du temps, il est sous la terre. Et parfois, il remonte, mais quand il remonte, on peut pas rentrer dans tel territoire parce que c'est la guerre. Ça l'était déjà et ça l'est encore plus maintenant. Ce que je fais dans mes romans, c'est que je complète par l'imagination quand, pour X ou Y, je ne peux pas aller. Et c'est bien aussi, il faut mélanger les deux. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert d'autres choses que celles que j'avais prévues, et c'est ça l'objet d'un voyage.
Et dans les choses que vous avez découvertes, il y a le Sri Lanka.
Oui, alors ça c'est la découverte.
Ouais. Ça, c'est la découverte. C'est la surprise. Et vous avez marché sur les pas de l'écrivain voyageur. Là, pour le coup, c'est comme ça qu'on le nommait.
Ouais, Nicolas Bouzier, ouais.
Blatt, Bouzier, Scorpion, Scolopendre. J'ai l'habitude de ces changements d'échelle et de ces minuscules interlocuteurs. Je ne cache pas non plus mes sympathies. Cette femelle colossale me plaît, sans illusion. Pour les élans du cœur et les marivaudages, l'épicière a un poisson scorpion qui tournoie dans un bocal à concombre, joliment aménagé avec du corail, du sable fin, et posé au coin du comptoir. Elle le nourrit de miettes, de cassonade, de mouches qu'elle écrase, d'un peu de pain. C'est un jeune mâle en belle santé qui virevolte à la moindre agacerie en déployant un parasol de piquants venimeux tacheté de sépia. Lorsqu'elle se croit seule, elle colle son visage contre le verre et lui fait des grimaces, auxquelles il répond par d'élégants frémissements. J'ai plusieurs fois surpris ce manège, en retenant mon souffle avant de me retirer sur la pointe des pieds, jaloux comme un barbon. La place est donc prise. Mais il n'est pas interdit de rêver.
Vous avez reconnu évidemment Pierre Ducrozet. C'était un extrait du Poisson Scorpion.
Un des plus beaux, textes de la littérature francophone du XXe siècle, à mon avis.
Que vous aviez incroyable. Dans votre sac.
Oui, et qu'on a lu et relu justement avec Rouletta. On voulait aller voir, on voulait faire une série de reportages autour du voyage de Bouvier, le mythique voyage de Bouvier de 55. Qui arrive après son périple solaire de l'usage du monde, il arrive au Sri Lanka, il est bloqué là, il est malade, il est enfermé, et c'est une descente aux enfers.
Et c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il décrit dans ce récit.
Il décrit une descente aux enfers incroyable, fascinante.
Où il est épuisé, enfermé.
Il est à Galles, dans cette ville portuaire, épaisse, humide, c'est un voyage incroyable, délirant, il a des apparitions, et il a des visions et tout. Et donc nous, on arrive là-bas avec ce livre en tête, quoi. Et on découvre, mais l'opposé, pour nous, évidemment, puisqu'évidemment, c'était un voyage intérieur. Et puis, c'était avec 50 ans d'écart. Mais
c'était un voyage intérieur que décrivait Nicolas Bouvier.
Voilà, il
décrivait tous les insectes et les bestioles qui l'entouraient, les seuls êtres vivants qu'il y avait dans sa chambre.
C'est le gouffre du voyage, quoi. En fait, le gouffre de l'existence qui lui arrive là. Il est très jeune et il a fait un voyage merveilleux avec Thierry Vernet. Thierry Vernet rentre en Europe. Lui, il reste là. Et il s'en fonce dans quelque chose de c'est un sorte de voyage au bout de la nuit en fait. Et c'est merveilleux dans le livre, mais c'est très dur ce qui lui est arrivé. Et
il a mis 20 ans à l'écrire.
Oui, parce que c'est vraiment le centre de son œuvre et il n'arrivait pas à arriver à ce noyau dur.
Alors on l'écoute.
Je suis arrivé à Ceylan après presque deux ans de route. Et je m'y suis enlisé comme une sorte de Robinson échoué. J'étais très malade. J'avais toutes les infortunes tropicales qu'on peut attraper dans ces pays. J'étais sans argent. J'ai cédé à une sorte d'envoûtement dans le sud de cette île où je me suis mis à pourrir sur moi-même comme un ananas et où je me suis trouvé confronté à une espèce de douce dérive hallucinatoire qui allait vers la démence. Et puis je me suis...
Carrément, oui.
Carrément, oui. J'avais la berlue, comme on dit chez nous. La maladie est une des formes d'usure du voyage. Il y en a d'autres, car je considère que ce que le voyage peut vous apporter de meilleur, c'est l'usure. J'aimerais terminer ma vie arrondie comme une pierre roulée, comme un galet roulé par un torrent pendant très longtemps, et léger. Et c'est cet allègement du voyage qu'on peut atteindre dans le bonheur aussi, mais qu'on peut atteindre par l'affaiblissement physique. Oui. On abaisse sa garde, on reçoit des coups, mais on comprend beaucoup de choses.
C'était Nicolas Bouvier, une archive de 1986, Pierre Ducrozet. Vous vous retrouvez tout à fait là-dedans sur cette mise à l'épreuve. Voyager, c'est perdre des plumes, ça peut être une descente aux enfers.
Même si évidemment la sienne a été incomparable avec la mienne ou d'autres,
mais
évidemment,
que...
ouais, évidemment, c'est ça. Mais il le décrit parfaitement. Et puis c'est comme il dit, s'user, et de finir comme un petit caillou rond. Ouais, c'est tellement beau. C'est ça, vraiment le voyage, c'est ça. C'est pour ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est ça, c'est que en fait, on part avec c'est le paradis, c'est les palmiers, etc. En fait, l'apprentissage ultime du voyage, il est un peu amer.
Ah oui, il est amer,
et c'est bien. Et on va le chercher, on l'apprend et on l'avale et on fait avec mais on y va quoi. Et ce dernier voyage là, celui qu'on a fait là, pour moi j'avais l'impression de jour en jour de descendre en moi-même dans les lieux et la descente c'est l'apprentissage quoi. Et ça c'est ça que j'aime. Je voulais pas revenir parce que je sentais que je descendais de plus en plus et que j'allais de plus en plus loin quelque part je ne sais pas où. Et
qu'est-ce que vous avez vu au Sri Lanka? Oui. Parce que du coup vous n'avez pas du tout vu ce que décrit
non.
Bouvier. Qu'est-ce
non,
que
non.
vous avez vu vous?
Eh ben un pays enchanté, enchanteur, peut-être le plus beau pays qu'on ait jamais vu, une île incroyable, les gens d'une douceur, d'une bonté, d'une sorte de ouais une merveille à tous les angles de rue. On était venu pour faire cette série d'articles qu'on a appelé l'usure du monde justement par rapport à ce que disait Nicolas Bouzy tout à l'heure et non pas l'usage du monde. Et on est finalement resté 2 mois parce que on ne pouvait plus repartir parce que c'était tout voilà c'était merveilleux. Donc c'est ça le voyage aussi, c'est on fait des détours quoi.
On fait des détours et puis il y a des endroits où on se sent chez soi. C'est ça aussi le voyage.
Oui.
Étonnamment, ouais. On arrive à un endroit et peut-être que c'est aussi ce qui vous est arrivé au Sri Lanka.
Ouais. Ça nous est arrivé pendant tout le voyage en réalité, enfin souvent. Et quand j'ai écrit cette chronique pour Libération en développant ces sujets-là, on était dans un lieu vraiment, on était en Birmanie en l'occurrence, mais c'était le Sri Lanka, c'était exactement pareil, dans une auberge qui payait pas de mine, mais on était à la maison dans cette chambre-là. Parce qu'en fait, on s'est tellement habitué à faire corps avec les lieux, enfin à certains niveaux, hein, c'est pas non plus sans fin. Il y a des lieux que je déteste très vite et tout de suite j'ai envie de partir.
On le sent très vite.
Ouais, tout de suite. Ouais, dès qu'on rentre, c'est comme une personne en fait. Ça va très vite. Mais quand là, on a la capacité de dans un bus de se sentir bien ou dans un village finalement assez inhospitalier. Et alors le Sri Lanka, non, c'était pas inhospitalier, c'était voilà. Et donc ça nous faisait rire de relire le Poisson Scorpion et de
et
voir ce qu'il disait,
qui
disait des gens et de. Mais bon, parce que voilà, évidemment, son expérience été unique et terrible, et puis dans un autre monde aussi que celui qu'on a connu. Ce voyage-là, c'était un apprentissage aussi puissant finalement que le premier, mais plutôt inverse. Non pas courir, non pas aller vite et prendre tout dans la gueule, mais aller plus lentement peut-être, s'arrêter et faire corps avec les lieux.
Et puis malheureusement, donc la Covid vous a rattrapé et
ouais.
Vous n'avez pas pu exactement faire le voyage que vous vouliez. Vous avez
quand même pu aller jusqu'au bout et on est allé jusqu'au Japon, jusqu'où on nous a dit, jusqu'au moment où on nous dit bon les gars maintenant
faut rentrer. Il a fallu rentrer. Et en 2020, donc vous rentrez en 2020.
Oui, en avril, fin mars 2020, en plein confinement.
Et en 2020, vous publiez votre dernier roman, oui. Le Grand Vertige, qui a été inspiré, entre autres, par la pensée du philosophe et de l'anthropologue Bruno Latour.
J'avais envie de faire un roman autour de ce changement de monde, de cette bascule de monde, de ce changement climatique, un roman d'aventure. Et quand il y a eu la lecture de quelques textes essentiels, dont Où atterrir de Bruno Latour, où j'avais l'impression qu'il arrivait à décoder ce qui faisait le temps présent, et il m'a inspiré ce point de départ du livre d'exploration, une nouvelle exploration du monde.
Alors on va l'écouter justement interviewé en 2017, l'année de la sortie de Où atterrir, Bruno Latour, au micro de Frédéric Worms sur France Culture.
On est dans une relation probablement de guerre. Le retrait par les États-Unis de l'accord sur le climat est une déclaration de guerre en un certain sens. Ça dit « mon CO2 va vous envahir et je m'en fiche ». C'est un envahissement pas par les soldats ou par des drones ou par des sous-marins, mais de façon très efficace, puisque l'Amérique, à partir de maintenant...
Je me désintéresse de notre vie commune, et donc, en fait, c'est un acte de guerre.
C'est un acte de guerre. On est, et d'ailleurs, qui est aussi aux États-Unis une guerre civile, puisque beaucoup d'Américains ne sont pas du tout d'accord. Et donc, on est bien en situation de guerre, en quelque sorte. Et c'est important, parce qu'autrefois, on considérait que toutes les questions de nature, les questions qui mobilisaient ce qu'on appelle encore l'écologie, même si le terme est peut-être n'est plus le bon, on pensait que c'était des situations de paix. Si on s'adresse, si on invoque, disons, la question de la nature, c'est supposé être un horizon de paix. Et on s'aperçoit maintenant que c'est tout à fait inexact, que chaque sujet des anciens êtres de la nature, que ce soit les insectes, le climat, la nourriture, les inégalités, la ville, etc., sont des questions qui au contraire, divisent. Donc il y a une situation qui est en même temps positive, puisque c'est un retour du politique, mais en même temps, il faut s'armer, si j'ose dire, intellectuellement et aussi organisationnellement pour cette politique.
Pierre Ducrozet, c'était donc Bruno Latour. L'idée de la guerre, on la retrouve dans votre dernier roman, parce que votre personnage principal, Adam Tobias, passe à l'acte.
Oui, alors, à mon avis, c'est plutôt lui qui répond à une guerre, qui est celle dont parle Bruno Latour, qui est menée contre les êtres humains, contre le monde vivant, qui a été décidé par une poignée de personnes, et après, qui a entraîné tout un monde, qui est le monde qu'on connaît, mais disons qu'il y a eu une décision de guerre, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, d'entreprise du pétrole, d'autres choses, avec la volonté claire, quand même, de défaire et de détruire un monde. Adam Tobias, lui, et les personnages de mon livre, ils répondent à cette offensive-là, et ils essaient de contre-attaquer, en fait, quoi.
Ils contre-attaquent d'abord dans la violence?
Sans violence, en fait. C'est plutôt une violence symbolique. C'est-à-dire, c'est là ce qu'on appelait l'action, l'action directe, quoi.
Voilà,
Il n'y a pas de mort ni de blessés.
Non, il n'y a pas de mort plus de blessés. Ça détruit.
Détruit. Du sabotage.
Du sabotage. Et puis après, on essaie aussi, il réfléchit à comment vivre aujourd'hui, comment à partir de maintenant, on va pouvoir habiter et inventer une autre façon d'habiter le monde.
C'est ça. Il faut à la fois, il faut marcher aussi là sur ces deux pieds, c'est-à-dire repenser tout. de la manière de toutes les manières de vivre, de déplacer, de tout. Et en même temps, il faut aller assez vite aussi. On peut pas que penser. Il faut aussi être dans une action politique forte, directe, rapide, parce que le monde est en train de ce monde-là est en train de basculer. Il y a un monde vivant qui est en train de s'écrouler, dont on n'entend pas le cri, mais il est là. Et donc, c'est pour ça que je crois vraiment à réinventer les manières, par exemple, de faire société, de construire des démocraties, avec parfois des impulsions politiques plus fortes. En fait, le XXe siècle a été aussi l'histoire de mettre de côté, au fur et à mesure, l'idée de révolution, parce qu'elles ont été un peu décrédibilisées. Il faut maintenant réinventer ça.
Et c'est ce que vous faites?
Non, c'est ce que font plein de jeunes, notamment, plein d'activistes, moi je regarde et j'écoute et je suis pas, j'ai beaucoup de d'admiration et voilà, je me considère pas comme un activiste comme eux. Non, moi j'essaie d'écrire des romans déjà et puis j'essaie de d'écrire sur tout ça et sur eux. Mais je crois vraiment beaucoup à cette énergie-là qui est en train de se construire. Ouais.
Between an artsy couple escalate. Strawberry.
strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Screaming.
Zoé Varier sur France Inter.
Bon Pierre, c'est le moment important, c'est la dernière émission de la saison. Donc,
la dernière ligne droite.
La dernière ligne droite, mais vous allez y passer comme tous nos invités. Ouais. C'est le moment Hit Parade.
D'accord.
Hit Parade de l'année donc 2003, de votre journée, l'année de votre journée particulière.
Formidable.
Et en France, ça fleurait bon l'Amérique latine. Oui. Avec la Bamba. De la Star Academy, repris.
Reprise. Oui,
ah ouais, reprise.
Oui,
rassurer, ouais. Ouais, je vous rassure. Laurie aussi, qui chantait sur un air latino.
Ouais.
Et
tout ça, c'est l'influence de Manu Chao, finalement.
Bien sûr.
C'est la queue de comète.
La queue de comète, absolument. Mmh. Et DJ Bobo, ça vous dit quelque chose?
Non, mais ça, à mon avis, ça n'augure pas du meilleur. Là.
Qui reprenait Chihuahua de Luis Oliveira.
Chihuahua, 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 Chihuahua.
Bon, ça vous plaît?
Ouais.
Bon souvenir. Single vendu à plus d'un million d'exemplaires, numéro 1 en France au 8 parades pendant plus de 10 semaines quand même.
Non,
Pierre Ducrozet,
noté. Grande saison camping là qui s'est agitée autour de Chihuahua. Ouais,
ah oui, vous croyez?
Oh bah oui, ouais.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que je pense que l'été a été chaud, ouais.
Ah oui.
Ouais.
Bon alors Pierre Ducrozet, vous l'avez dit très rapidement en tout début d'émission que dans votre sac à dos il y avait Arthur Rimbaud. Qui vous accompagne toujours et toujours et qui vous
c'est un peu attendu hein, mais c'est comme ça.
C'est un peu attendu mais c'est comme ça mais c'est magnifique. Alors pourquoi s'en priver?
C'est indépassable, voilà, les 150 pages finalement hein, c'est les œuvres complètes.
Ouais.
Et voilà.
Bon bah c'est notre cadeau. Cadeau de fin de saison, cadeau de dernière émission pour se donner ou pour me donner un peu d'horizon.
J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lame, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Pierre Ducrozet, la fin du bateau ivre dit par Laurent Terzieff.
Ben, c'était juste avant de partir, je me souviens, en dernière année de fac, quoi, où je lisais tous ces poèmes, en particulier Illumination, et je me disais, si un jour on est capable d'écrire un vers, une phrase, une demi-phrase qui soit de cette ampleur-là, bon, on n'aura peut-être pas complètement perdu notre temps, quoi. Mais rien, pas plus, hein. C'est déjà énorme.
C'est-à-dire que vous cherchez, il y a quelque chose comme ça que vous cherchez le jour où vous aurez écrit une phrase.
Ouais. On une sorte de quête d'une, je sais pas comment l'appeler sans être pompeux, mais voilà, quelque chose qui coule comme ça, qui est cette musique-là, qui est ces reflets, ces couleurs dans une seule phrase, qui est cette musique, ce son. C'est ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'on écrit des livres. Qu'on essaye, quoi, et on n'y arrive pas, et donc du coup on recommence. Rimbaud, lui, il était arrivé tellement vite que du coup il a arrêté très tôt.
Et vous allez repartir là pour l'été?
Oui, à l'été, du coup, oui, l'été je prends mon sac comme en 2003, mais je reste en Europe, quoi, mais je vais en Grèce, en France, en Andalousie, à Berlin. Mais l'idée, c'est vraiment de pas trop savoir où aller, et de prendre un train, d'aller retrouver un ami là, retrouver Julieta aussi en Grèce, et voilà, et retrouver cette espèce de liberté qu'il y a dans l'été aussi, parce qu'on a pas, j'ai pas trop parlé de ça, mais le voyage c'est aussi et surtout peut-être l'été, il y a cette espèce d'intensité des choses dans l'été, et je crois j'attends beaucoup de cet été, comme beaucoup de personnes, oui. Parce qu'on a été dans une longue nuit.
On attend beaucoup de
et
cet
donc,
été.
Et donc cet été, ça va s'ouvrir comme un fruit mûr, quoi.
J'espère, merci en tout cas.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci Pierre Ducrozet d'avoir passé cette heure avec nous. Vos livres sont publiés chez Actes Sud. Parmi les plus récents, donc, il y a Partir léger, un an de chronique dans Libération, ou encore Le Grand Vertige, et puis aussi un album jeunesse que vous avez écrit avec Julieta.
Avec Julieta, justement. J'ai dit aussi cette émission, et on a écrit un livre qui s'appelle Je suis au monde, et qui définit bien un petit peu dans son titre ce qu'on essaye de faire et ce dont on a parlé aujourd'hui. C'était cette tentative de nouvel accord avec le monde.
C'est-à-dire habiter autrement la planète. Voilà. Et ça, c'est chez Actes Sud Junior. Voilà, c'est fini. C'était une journée particulière. Une émission préparée toute la saison par le génial Hugo Combe et la géniale Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Philippe Mercher. Merci. C'est la dernière émission de la saison. Avec un peu d'émotion, il est donc temps de dire merci. Merci évidemment à nos formidables invités, à leur attaché de presse. Merci aussi aux documentalistes de Radio France, la docu d'actu, la docu sonore, la bibliothèque, la doc musicale. Leur travail nous est précieux. Merci aussi aux documentalistes de l'INA qui se relaient pour nous accompagner et nous aider à trouver des archives chaque semaine. Merci à Isabelle Derex, à Céline Dubois, à Xavier Pestudia. Merci également à toutes les techniciennes et à tous les techniciens qui sont ceux qui se sont succédés de l'autre côté de la vitre. Merci à l'Alliance française de nous avoir accueillis quand les restrictions sanitaires étaient plus sévères. Aussi, merci à Emmanuel Perrault et à Pascal Vestrelin de nous avoir permis de travailler à distance. Voilà, c'est fini pour cette année. Une journée particulière continue sur la grille d'été de France Inter. À partir de la semaine prochaine, ce sera tous les dimanches, mais à 16h, notez-le, des émissions inédites, fabriquées et pensées pour les beaux jours. Et quelques rediffusions. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite un bel été et beaucoup, beaucoup, beaucoup de journées particulières. Dun 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 d
dun 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 dun.